France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on faire de la politique avec les nombres, Occident versus Chine ? En 2015, le juriste Alain Supiot rassemblait dans un livre intitulé « La gouvernance par les nombres » le contenu de ses cours au Collège de France. Il y expliquait que le vieux rêve occidental de l'harmonie par le calcul avait fini par prendre la forme d'une gouvernance par les nombres visant la réalisation efficace d'objectifs mesurables. Porté par la révolution numérique, ce nouvel imaginaire est devenu, selon lui, celui d'une société où la loi cède la place au programme et le gouvernement à la gouvernance. Il y aurait comme une ambiance de mise en pilotage automatique des affaires humaines. 10 ans plus tard, Romain Graziani, professeur en études chinoises à l'École normale supérieure de Lyon, publie Les lois et les nombres. Il y explique que la Chine fut à sa manière pionnière dans la mise au point de méthodes impersonnelles et automatiques pour établir l'ordre dans l'Empire aussi bien que dans la vie quotidienne. On m'accordera que la tentation est forte et même irrésistible de croiser ces deux livres, de les faire dialoguer. Parlent-ils vraiment de la même chose ? Ce que nous entendons par loi et nombre dans les sociétés européennes correspond-il aux instruments développés en Chine ? Ou bien y a-t-il entre eux des différences fondamentales que masqueraient des traductions un peu trop simplistes ? La bonne nouvelle du jour, c'est que nous allons pouvoir répondre à ces questions puisque Alain Supiot et Romain Graziani sont l'un et l'autre en face de moi dans ce studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alain Supiot, je rappelle que vous êtes donc juriste, professeur au Collège de France et auteur de ce fameux livre « La gouvernance par les nombres ». Et Romain Graziani, vous êtes professeur en études chinoises à l'École normale supérieure de Lyon, auteur de « Les lois et les nombres » avec un sous-titre « Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors, est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre de dire ce qu'il y a dans vos livres, en commençant par vous, Alain Supiot.
Vous l'avez déjà très bien résumé. Donc,
il fait quand même 400 pages, votre
livre. Oui, mais en laissant tomber la seconde partie du livre, qui, il est vrai, ne correspond pas au titre, elle a fait l'objet d'un sous-titre dans l'édition anglaise. C'est-à-dire que ce rêve d'un pouvoir impersonnel des nombres, qui permettrait de créer une harmonie, dont les origines d'ailleurs sont liées à l'idée d'harmonie musicale, nous verrons que c'est peut-être un des points en commun avec le livre d'Antoine Graziani, est voué à l'échec, à l'impasse. Et ce que j'ajouterais sur votre présentation de ce livre, c'est qu'il faisait le diagnostic que derrière cette façade d'une gouvernance par les nombres seraient installées des nouvelles formes d'allégeance des personnes, donc d'un régime d'allégeance, et où la liberté de chacun n'étant plus garantie par une loi commune à tous, pour s'en sortir, eh bien le faible doit faire allégeance à plus fort que lui et obtenir l'allégeance de plus faible que lui. J'en donnerai qu'un exemple de depuis 2015, on a vu ceci se manifester partout. Donc l'État des États-Unis en est un très bon exemple dans les rapports, par exemple, entre la Big Tech et le nouveau président. Mais j'en donne juste un exemple. Dans l'actualité d'hier, on nous a dit que certains dirigeants européens voulaient faire une coalition des volontaires. Et cette notion avait été élaborée, alors je ne sais pas si les responsables politiques le savent, mais d'abord par le département d'État, et a été avancée d'abord par Bush Junior pour justifier et pour organiser la seconde guerre en Irak. Et coalition des volontaires, ça veut dire que le suzerain lève son drapeau et que les vassaux le suivent, chacun avec ses troupes. Donc la coalition était remplacée à l'idée d'une organisation fondée sur des règles. Et l'on voit maintenant qu'en Europe même, c'est ce schéma de pensée qui semble devoir s'imposer dans les relations internationales.
Romain Graziani, même exercice, que dit votre livre ?
Alors, l'exercice que je vais pratiquer, puisque nous sommes dans l'alternance des paroles, c'est de reprendre des notions et des idées développées par Alain Supiot et de présenter mon livre en reprenant ses instruments, linguistiques et non numériques. Effectivement, dans ce livre, j'essaye de montrer comment se sont constituées les représentations centrales qui ont dominé l'imaginaire politique en Chine. En minimisant, comme vous le savez, l'intervention humaine, d'abord par une volonté de rendre la politique et l'exercice de l'État impartial. Cette impartialité se traduit par l'impersonnalisation et, conséquence attendue ou non volontaire, par une certaine déshumanisation des modes d'autorité, de gouvernance, de contrôle et de surveillance de la communauté humaine. Pourquoi ? Parce que le pilotage, la coordination de toutes les opérations qui concourent à la production sociale ont été fondées sur la manipulation de lois et de nombres, sachant que les lois répondent à une logique très différente de la logique juridique occidentale. Ce sont des lois qui n'ont pas pour contrepartie les droits, ce sont des lois qui sont élaborées pour l'efficacité technique, productive, pour l'encadrement et la quiétude sociale, sans la moindre considération de justice. Il y a des penseurs chinois qui réfléchissent à la question de la justice, notamment dans l'école confucienne, mais pratiquement en désaccord ou en opposition avec les lois qui ont un caractère avant tout pénal. C'est à cette époque, vers le 5e siècle avant notre ère, et en s'intensifiant dans les siècles suivants, que les calculs d'utilité et d'intérêt s'imposent à tel point qu'ils en viennent à définir les différentes classes sociales. Les artisans, les commerçants, les soldats, les paysans, les intellectuels, ce qu'on peut appeler à l'époque déjà les fonctionnaires, sont classés en fonction de leur degré d'utilité, du service productif ou de la richesse qu'ils peuvent rapporter à l'État. Avec les classes plus ou moins utiles, un peu comme les parties d'un arbre, où il y a des racines nourricières et puis des branches tout à fait secondaires, quelques surgeons parasitaires que l'on pourrait émondé sans dommage pour le corps principal de l'arbre. La législation est fondée sur une tarification, sur une correspondance arithmétique entre les faits et les normes, entre les conduites et leurs sanctions par l'État. Et cette législation vise à reprogrammer les conduites, à instiller des tropismes, à évaluer des performances. C'était là institué, il me semble, pour la première fois dans l'histoire, un paradigme politique de l'objectivité. J'essaye dans cet état de montrer les limites, les insuffisances, voire les contradictions de ce modèle assez primitif de l'objectivité qui n'a cessé de se raffiner dans l'histoire chinoise. Il se caractérise notamment par une foi quasiment aveugle dans la vertu propre au nombre. Et là, Étienne, pour commencer à répondre à cette question, les nombres, en effet, ne désignent pas stricto sensu ce qu'on peut comprendre par cette idée, par cette notion, depuis les mathématiques antiques, puisque les nombres en Chine ne se réduisent pas à des unités quantitatives, mais jouent un rôle combinatoire et qualitatif dans l'arrangement du monde. Les nombres ont des qualités propres, une sorte de dynamisme, et leur mise en série ne répond en rien à une rationalité mathématique, mais avant tout à des processus de réaménagement du monde liés aux qualités propres à ce monde. Hein. Les qualités de repli et d'expansion, de yin et de yang, de lumière et de chaleur, de tolérance et de rigueur politique, de totalité ou de fragmentation, s'expriment dans des nombres qui sont comme des emblèmes qualitatifs sous lesquels se rangent certains aspects de la réalité. Quels étaient les moteurs de cette grande révolution étatique ? L'appât du gain, à n'en pas douter, et le renforcement de l'appareil militaire dans le contexte d'une sorte de guerre mondiale sous le ciel chinois qui fait fureur pendant presque 3 siècles. Dans cette optique, ce n'est pas seulement la société qui est soumise à cette gouvernance par les nombres, mais même la nature qui, de milieu vivant où circulent les esprits, les divinités, les ancêtres, les divinités également non dynastiques, les hypostases de certaines réalités naturelles, la nature en vient à se transformer pour être considérée comme un ensemble de ressources matérielles à creuser, à extraire, et la simple contemplation d'une forêt, d'une montagne ou d'un océan fait tout de suite l'objet de calculs chiffrés et des profits à en tirer année par année.
Merci. Alors, pendant la première partie de l'émission, je vais jouer le rôle de maître d'école. Après, la conversation sera plus libre, mais je vais vous demander maintenant à l'un et à l'autre de réagir à la lecture du livre de l'autre. En commençant par vous, Alain Supiot, vous avez lu le livre de Romain Graziani. Est-ce qu'il y a des recoupements avec ce que vous dites, ou bien est-ce que, comme vient de l'expliquer Romain, la notion de nombre, la notion de loi sont tellement différentes en Chine de ce qu'elles sont en Occident que le recouvrement n'est pas complet?
Alors, c'est un livre dont je recommanderais la lecture à tous les juristes, en tout cas, dans un moment géopolitique où, nous le savons, la Chine occupe maintenant la figure de l'un des principaux hégémones. La lecture de ce livre m'a rappelé le diagnostic que j'avais pu esquisser il y a 20 ans de ça, je crois que c'était dans l'esprit de Philadelphie, selon lequel l'effondrement, l'implosion de l'Union soviétique n'était pas une victoire de l'Ouest sur l'Est, mais une étape dans un processus de fusion. J'avais parlé de mariage du capitalisme et du communisme.
C'est le titre d'un chapitre de votre livre.
Voilà, et d'une fusion qui commence en Chine avec les réformes Deng Xiaoping, et qui fait naître cet objet que les politologues semblent avoir du mal encore à comprendre, d'un État communiste, d'économie de marché, qui se définit lui-même à l'article 1er de la République populaire de Chine comme une dictature démocratique. On pourrait dire nous sommes loin des rivages européens, mais il y a malgré tout des échos. Mon collègue, le grand constitutionnaliste Dieter Grimm, a publié il y a quelques années un livre, malheureusement pas traduit en français, où il montre que on a soustrait à la démocratie par la construction européenne tout ce qui concerne les choix de politique économique en les constitutionnalisant dans les traités. Et donc il préconise de rendre les choix de politique économique à la démocratie et au débat politique si l'on veut restaurer la démocratie en Europe. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'échos, et sur les nombres, il y a dans la mathématique, je crois là, des données universelles, et la lecture de René Thom m'avait conduit à... René Thom fait une petite remarque sur le découpage de la connaissance en différentes disciplines, et il dit que chaque discipline peut être identifiée par son aporie fondatrice, c'est-à-dire une contradiction de base qu'il faut assumer, mais qui est au cœur, au fond, de la discipline, qui est sa clé de voûte dans le même temps. Et s'agissant des mathématiques, il explique que c'est la différence continue discrète. Donc il ne faut pas, je pense, réduire la mathématique au dénombrement. Alors je suis conforté dans cette lecture par celle de, par exemple, de Giuseppe Longo et son ami Lassay, qui viennent de publier un livre sur l'emprise du numérique, où il développe beaucoup cette idée. Alors, cependant, dans l'imaginaire occidental, l'idée que les nombres pourraient avaler le monde entier dans les nombres, s'est imposée, nonobstant les fronts avancés de la recherche en mathématiques, et notamment les grandes percées intellectuelles du XXe siècle en maths, pour ce que je peux en comprendre, qui nous ont appris qu'il est impossible de boucler l'universitaire du calcul sur lui-même. Je ne m'avance pas plus, mais ça me ramène à la question juridique. Alors je dirais que sur les nombres, ce qui est expliqué sur la Chine, on retrouve beaucoup d'échos de ce que l'on peut voir dans l'histoire de la culture occidentale. En revanche, pour les lois, c'est différent. Bien que l'aporie fondatrice soit la même, l'aporie fondatrice du droit, me semble-t-il, c'est la souveraineté, c'est-à-dire concevoir un monde ordonné dans un univers désordonné, C'est une question que se posent déjà les canonistes.
Les physiciens.
Oui, moi, pour entrer dans la discussion sur la souveraineté, je commence par une lettre de Descartes au père Mersenne, où Mersenne lui dit « Écoute, Descartes, si 2 et 2 faisaient 5, si Dieu voulait, est-ce qu'il peut le faire ?» Alors Descartes dit « Il est tout puissant. » Mais il ne voudra pas le faire parce qu'il a créé un monde ordonné. Il ne va pas vouloir... Il ne peut pas vouloir défaire le monde qu'il a fait lui-même. Là, vous êtes au cœur du problème de la souveraineté, qui est le garant d'un ordre face à l'inscrutable, à l'incalculable, etc. Alors, de ce point de vue, il me semble que les histoires chinoises et j'allais dire d'origine romaine ou gréco-romaine sont différentes. Le concept de loi est... C'est ce que j'ai compris, mais Romain va pouvoir nous dire si c'est exact, si c'est une bonne lecture de la lecture de son livre, se réduit quand même largement à la loi pénale. Donc ce n'est pas une loi qui soutient la reconnaissance de droits subjectifs. C'est une loi qui objectifie ou réifie tout ce qu'elle touche, alors que, dans le cas de l'histoire occidentale, nous avons au cœur de la réflexion ces notions et qui a donné notamment les droits de l'homme. Voilà, donc je pense qu'il y a une grande... on est sur le même terrain sur les nombres, mais pas sur le même terrain concernant l'idée de loi.
Alors à vous, Romain, vous avez lu le livre d'Alain Supiot avant d'écrire le vôtre, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il vous a influencé ou est-ce que vous avez travaillé comme s'ils étaient indépendants?
Il m'a pas influencé, mais il m'a inspiré, si vous êtes sensible à la nuance. Je dirais que s'il m'avait influencé, j'en aurais repris une partie de la composition, les notions maîtresses que je dialoguerais pendant de longues plages de chapitres. Il m'a donné un élan, une grille de compréhension et surtout une sorte de référence tacite, parce que je fais pas de la comparaison historique, ce n'est pas un essai qui essaye de comparer la genèse et le développement des lois ou d'une philosophie des nombres en Occident et en Chine, mais j'ai pu, après la lecture du livre d'Alain, façonner mon propos de telle façon que s'en déduisent implicitement pour le lecteur certains raisonnements qui l'aideront à apprécier la différence avec ce grand bloc européen où s'est développée une pensée de la loi et des traditions juridiques de façon tout à fait indépendante, effectivement. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage d'Alain et aussi en partie dans l'ouvrage d'Olivier Rey, Comment le monde s'est fait nombre, c'est cette enquête très précise sur la naissance et les conditions d'émergence de ce paradigme des nombres dans les traditions européennes qui permet de saisir avec plus de relief encore le contraste saisissant des traditions politiques chinoises qui met au point les recettes de ce qu'on peut vraiment appeler l'État à une époque bien antérieure. Ça m'a montré la précocité et le décalage chronologique de certains raisonnements qui ont été, en dépit des différences de culture et de langue, à peu près similaires dans la tradition chinoise. Cela dit, Alain a tout à fait raison de montrer que la tradition de la juridique en Chine ancienne, c'est une loi qui se constitue, se formule en un sens contre le peuple, pour le traire, pour le faire travailler, pour l'exploiter, pour le mettre au point. Elle ne répond pas du tout à une revendication populaire, à une pression de la population obligeant les gouvernants à se doter des lois, ce sont des instruments de contrôle et d'enrichissement de l'État. C'est dans ce contexte qu'émergent les pratiques de recensement de la population, de division en différents pourcentages du territoire selon la nature des terres, les marais, les forêts, les montagnes. Tout est mis en nombre avec une évaluation chiffrée à la fois des territoires et des populations jusqu'à leur performance au travail. Hein. Combien de têtes de flèches on fabrique par jour, combien de kilomètres un fonctionnaire en mission doit parcourir pour échapper aux coups de fouet, etc. J'étais très sensible dans les lois, dans la gouvernance par les nombres, ça y est, nos titres commencent à converger dangereusement, dans la gouvernance par les nombres, à cette façon de retracer ces processus de déshumanisation au travail, avec des lois qui tantôt rendent des législations qui peuvent rendre plus vulnérables ou au contraire tentent de protéger le travail, parfois de façon plus ou moins active ou plus ou moins laxiste. Le travail de déshumanisation, je crois qu'il est assez clairement formulé en Chine dès l'Antiquité, avec cette idée étrange que je ne pense pas avoir trouvé dans le livre d'Alain, simplement parce qu'elle ne correspond pas à une réalité historique en Europe, mais cette idée étrange en Chine que si c'est déshumanisé, ça sera donc en un sens plus juste globalement. Parce que les sources de nocivité, de malfaisance, de désordre, de chaos sont vues dans les interventions de la subjectivité humaine, dans ce qui relève de l'intérêt personnel. Tout ce qui relève de la subjectivité étant vu de façon extrêmement négative comme quelque chose de partial, favorisant la cupidité, l'égoïsme au détriment du bien général.
Merci Romain Graziani. Alors moi j'ai une petite question à vous poser à l'un et à l'autre. Alain Supiot, vous citez Pythagore. Tout est arrangé d'après le nombre.
Enfin,
oui, c'est une traduction.
On attribue à Pythagore.
Voilà. Tout est arrangé d'après le nombre. Et vous, Romain Graziani, vous citez une phrase extraite du manuscrit de Pékin, qui date de l'époque des royaumes combattants, qui va de 481 à 221 avant notre ère, je suis précis, hein, il s'agit de nombres. Et cette phrase, c'est « Sans les nombres, impossible de saisir la trame du réel ». C'est presque la même phrase. Mais ma question est, est-ce que dans ces deux phrases, la signification du mot « nombre » est la même?
Qui veut répondre? C'est Romain qui maîtrise les deux langues, il pourra nous le dire.
Romain Graziani.
Alors, on a souvent opposé la Chine à l'Europe, notamment par le pythagorisme en Europe, l'idéalisation mathématique ou la structure du réel ou l'harmonie du cosmos en termes de nombres. On se dit qu'il n'y a pas vraiment, on peut pas vraiment trouver l'équivalent, même si on trouve des corrélations numériques qui organisent l'ordre naturel. Il n'y a pas cette valeur de ce paradigme, ce régime de véridiction par les nombres que l'on peut retracer jusqu'au pythagorisme. Alors, ce manuscrit qu'on appelle aujourd'hui le manuscrit de Pékin, parce que c'est l'université de Pékin qu'il a acquis hors des circuits légaux et reconnus, donc on ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il date de l'époque des royaumes combattants. Ce manuscrit de Pékin, c'est un peu le coup de tonnerre. J'étais en train d'écrire mon livre paisiblement, en regardant ma fenêtre, en contemplant les montagnes, et puis j'entends dans les newsletters qui viennent de Chine, j'entends parler de ce manuscrit, un dialogue fameux sur les nombres, et il ne ressemble à rien dans ses thèses radicales de ce que l'on connaissait. Alors, le manuscrit est à peine édité en chinois moderne. Il n'a évidemment jamais été traduit, mais je me suis saisi de ce texte, évidemment, comme d'une opportunité merveilleuse à savourer sous toutes ses coutures, puisque justement, il ne faisait que radicaliser certaines intuitions que j'avais à propos de l'importance des nombres en Chine ancienne. Et en fait, ça permettait même de renforcer une opposition dans cet essai, puisque comme je le dis dans l'introduction, la Chine qui nous apparaît aujourd'hui comme l'empire des lettres, comme le royaume des fonctionnaires lettrés, a été dans sa sous-structure, dans son infrastructure, gouverné par des modes de calcul, de tarification et par une sorte d'arithmétique politique générale qui échappe souvent à notre perception, et ce manuscrit dit les choses le plus clairement possible. En gros, on peut pas tout savoir, et entre les textes classiques et les nombres, on peut envoyer paître les classiques, on peut les envoyer balader, et il faut surtout s'intéresser aux nombres, en fait, qui saturent notre perception du réel et qui permettent d'organiser les activités les plus quotidiennes.
Mais vous citez Marcel Granet, disant « En Chine, les nombres ont une fonction protocolaire ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas une notion qu'on trouve dans le livre, sauf si j'ai mal lu, d'Alain Supiot. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction protocolaire attribuée au nombre?
En fait, dans l'esprit ritualiste chinois, il y a des conduites à tenir, une étiquette des formes cérémonielles qui, dans ce cas précis, sont informées par les nombres. Par exemple, les vêtements de cour, les couleurs que l'on choisit, la longueur des contrats de cérémonie, comme le rappelait déjà Jacques Gernet, correspondent à des nombres précis qui sont l'emblème d'une dynastie ou d'une ère impériale. C'est en ce sens-là qu'on peut associer une sorte de coloration numérique à l'exercice du pouvoir.
Vous citez, Romain Graziani, l'anecdote des singes. Je vais me permettre de lire et vous allez me dire ensuite comment il faut la comprendre. Un éleveur de singes dit un jour à ses pensionnaires, en leur distribuant leurs châtaignes, « Désormais, vous en aurez 3 le matin et 4 le soir. » Fureur chez les singes. « Bon, alors, fait l'homme, ce sera 4 le matin et 3 le soir. » Et les singes de manifester leur contentement. Bien que rien ne fût changé de la réalité ni de sa désignation, l'homme sut provoquer tour à tour la colère et la joie. C'est cela suivre le cours des choses. C'est pourquoi le sage instaure la concorde grâce à un usage judicieux de l'affirmation et de la négation et se laisse porter par le mouvement céleste.
C'est dense, hein ?
Commentaire.
Alors, si vous voulez un très bon commentaire, un excellent commentaire, il faut lire les propos intempestifs sur le Zhuangzi, écrits par Jean Lévy, publié aux éditions Alia. Il fournit un commentaire exhaustif, avec une plume alerte et pleine de verve, de cette histoire. Dans le cadre plus restreint de notre conversation, je dirais que c'est un texte qui se moque justement avec brio de cette idée que les nombres gouvernent la réalité. C'est une position. Il faudrait trouver l'équivalent de nominaliste pour des chiffres ou pour des nombres. Montrer que ça n'affecte en rien le réel, mais que l'esprit des hommes est ainsi fait que le moindre changement dans la formulation leur donne l'impression qu'une situation elle-même est en train de changer et qu'ils ont obtenu gain de cause. On peut y voir la trame même des conflits sociaux ou des négociations où, entre patrons et travailleurs, peuvent s'instaurer des discours qui laissent l'essentiel de côté, mais pour des questions de formulation, donnent l'honneur sauf ou l'impression d'avoir réalisé une avancée qui, dans les faits, ne correspond à rien.
Alain Supiot, votre livre est paru une première fois chez Fayard en 2015, nous l'avons dit. Il a été réédité sous format poche et pluriel tout récemment, en 2020, je crois. Et vous y aviez ajouté une préface dans laquelle vous établissez une distinction entre la mondialisation et la globalisation. Est-ce que cette distinction utilise, d'une façon ou d'une autre, la notion de nombre ?
Oui, alors je vous remercie d'avoir prêté attention à cette distinction, qui est à mes yeux très importante, mais dont je ne suis parvenu à convaincre quasiment personne, de ne pas confondre...
Vous avez une chance, là.
Alors, j'ai une chance. Peut-être pour le... Il y a plusieurs façons d'entrer dans ce sujet. La première, elle est du point de vue sémantique. On voit bien qu'un globe, c'est un objet géométrique, avec une surface uniforme. Alors que monde, c'est un mot mundus, qui nous vient donc du latin, qui est le contraire d'immundus, qui est l'équivalent de l'opposition cosmos-chaos en grec. C'est-à-dire, c'est un univers physico-chimique qui a été aménagé pour être vivable, pour les êtres humains. C'est ça un monde. Donc, dans le monde au sens global, il y a nécessairement une pluralité de mondes. Et en droit romain, le mundus était un petit temple construit à la fondation de la cité, qui était où on creusait une fosse, où on mettait des poignées de terre des différents villages de toutes origines, pour que ça devienne Patria Nostra, la terre de tous. Et donc c'était une manière de symboliser le centre, l'ombilique d'une cité, dans son rapport avec les forces telluriques, et dans son rapport avec la succession des générations. Et de ce point de vue, l'opposition globalisation-mondialisation, je ne saurais mieux l'illustrer que par... le dialogue, ou plutôt il n'y a pas eu dialogue, mais la critique très féroce à distance que Condorcet, le mathématicien, adresse à Montesquieu, le juriste, quant à l'utilisation de la notion de loi, justement, parce que, évidemment, Montesquieu est du côté de la mondialisation. Il s'intéresse aux sociétés humaines dans leur diversité, aux causes de cette diversité, qui ne sont pas seulement les climats, contrairement à ce que disent les gens qui ne l'ont jamais lu, mais qui sont aussi religieuses, culturelles, historiques, etc. Donc c'est le grand œuvre de Montesquieu sur l'esprit des lois, est une tentative d'appréhension de cette diversité infinie des sociétés humaines. Et voilà qui choque Condorcet, qui dans un texte, je le répète, assez féroce, dit « Mais qu'est-ce qu'il a lui prend à Montesquieu de vouloir, d'ailleurs il cite, s'intéresser au cérémonial des Chinois ?» Alors vraiment, qu'est-ce qu'on en a à faire des cérémoniales des Chinois? Et Condorcet explique, si la raison est une, eh bien les lois doivent être une. Et s'il y a des coutumes diverses liées à des superstitions, il faut les déraciner. Ça, c'est un projet de globalisation.
Avec une forme d'imposition.
Oui, et vous remarquerez qu'en France, quand on a créé un grand campus des humanités, on lui a donné le nom de Condorcet et pas celui de Montesquieu, manifestant ainsi l'ombre portée par une vision mathématique à mes yeux dépassée, puisque j'ai déjà cité le fait que c'est les mathématiciens qui nous ont appris qu'on ne pouvait pas bougler l'universitaire du calcul sur lui-même, l'univers du calcul sur lui-même. Donc cette distinction me paraît très importante à un moment où on voit s'effondrer sous nos yeux la dernière tentative de mondialisation qui a été l'ordre international conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. On a eu, si on prend l'histoire du XXe siècle, il y a eu l'idée, première tentative à la fin de la Première Guerre mondiale, d'un ordre mondial, la Société des Nations. Deuxième tentative à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, cet ordre s'effondre sous nos yeux, sous les coups, comme, si vous voulez, effet retour de la politique de globalisation. Parce que si vous prétendez réduire l'humanité à une poussière de particules contractantes homogènes et indifférenciées, ça ne fait pas disparaître les regroupements, mais ils se font sur des bases identitaires. Tout peut servir à ce moment-là à fonder de la solidarité, la couleur de la peau, l'origine, l'orientation sexuelle, tout y va. C'est-à-dire, ce qu'on voit ressurgir dans ces cas-là, c'est une logique ami-ennemi, où les groupes se divisent par des identifications souvent de nature biologique. Et contrairement à ce que dit Carl Schmitt, qui a eu le mérite d'avancer cette distinction ami-ennemi, ce n'est pas l'essence du politique, mais c'est à mes yeux le degré zéro du politique. Et lorsque l'on voit ressurgir partout cette logique, c'est le signe d'une crise profonde du politique. Je voudrais peut-être, si vous m'y autorisez, souligner deux points qui, en lisant le livre de Romain, m'ont frappé. Certains, j'avais déjà lu chez Van der Merch dans sa thèse sur le légisme, mais le livre de Romain est beaucoup plus, j'allais dire, documenté. On est frappé par la similarité entre l'anthropologie légiste et celle des libéraux, c'est-à-dire qui voient l'être humain animé uniquement par la peur et la convoitise. Mais la différence, parce que c'est ça qui serait intéressant que nous arrivions à cerner, dans l'actualité en tout cas, c'est qu'est-ce qui continue de diversifier l'expérience chinoise de l'occidental, notamment dans la mise en œuvre d'une surveillance générale par les nombres, dont nous sommes tous à la fois les agents et les victimes. La différence, me semble-t-il, alors je parle sous votre contrôle, Romain, c'est que, alors qu'en Occident, on a pensé que laisser faire l'égoïsme était le moyen d'accéder à l'ordre le plus juste et le meilleur possible, donc c'est la fable des abeilles de Mandeville, que Montesquieu critique dans les Lettres persanes. Il y a l'histoire des troglodytes qui est dirigée contre Mandeville. Je suis un grand défenseur de Montesquieu en toute
circonstance. J'ai l'impression.
Et alors que jamais les légistes n'ont pensé que laisser faire la convoitise ou la peur suffirait à assurer l'ordre. Ça n'est possible que sous l'égide d'un pouvoir, alors qui est décrit de façon très impressionnante dans le livre de Romain, qui se veut invisible. Mais on voit bien aussi que la Chine bute sur l'aporie fondatrice, c'est-à-dire la figure du souverain, et l'objet d'énormément. Est-ce que c'est celui qui doit s'occuper de tout? Est-ce que c'est celui qui se retire de tout? Est-ce que ça doit être plutôt le Premier ministre?
Vous parlez, Romain Grazini, d'un culte de l'impersonnalité.
Oui.
Oui.
Oui, oui. Bon, ça a une dimension un peu facétieuse dans ce titre, mais je pense qu'elle exprime quelque chose de tout à fait sérieux malgré tout. Dans, on est habitué, après le maoïsme, à cette idée de culte de la personnalité, mais la vraie philosophie de la, le vrai art de la domination chinoise, c'est celui vraiment de l'impersonnalité, puisque toute exposition de son individualité et donc de sa partialité anthropologique ou de sa finitude est vue comme une sorte d'entame ou de compromission de l'espèce de vertu charismatique qui doit émaner du souverain et est une atteinte à la majesté. Il vaut mieux une coquille vide, hein, qui puisse pleinement briller que un être qui se montre dans ses préférences, ses partialités et ses peurs, bien sûr.
Mais pour répondre à ce que vient de dire Alain Supiot, est-ce que vous pouvez rappeler la définition du légisme et répondre à cette remarque qui vient d'être faite?
Le légisme est une notion qui peut prêter à bien des malentendus. Rien à voir avec les médecins légistes, rien à voir avec les philosophes légistes du XVIIIe siècle. On appelle légiste on a regroupé en une école qui n'a jamais véritablement existé certains penseurs qui étaient pour la plupart également hommes d'État, premiers ministres, qui ont formulé par écrit, avec peut-être avec leurs disciples, un ensemble de principes de domination, de contrôle, de surveillance et de consolidation de la souveraineté, principalement au moyen des lois et, par extension, de procédures, de mesures et d'institutions qui échappent, qui se différencient nettement de l'action proprement humaine, du style de souveraineté, de la force personnelle ou de l'autorité liée au caractère. D'où le terme de légistes, qui sont les partisans de la loi, par opposition très nette à l'école ritualiste ou confucéenne, qui prétend régner par l'exemplarité morale, susciter une adhésion du cœur, une vénération et une sorte de soumission harmonieuse par l'exemple et par la conduite du souverain. Ça, c'est ce qu'il y a de plus net. Alain a raison de souligner les contradictions majeures dans la conception de la souveraineté, où le souverain doit être à la fois tout puissant, mais il vaut mieux qu'il règne plutôt que de gouverner. Il y a des attentes littéralement messianiques vis-à-vis du souverain, mais le régime de la succession héréditaire en Chine empêche ce vœu de se réaliser, puisque la plupart des gens qui arrivent sur le trône sont des médiocrités, des gens incapables de remplir leur office royal ou impérial par la suite et souvent en proie à la folie, l'immaturité ou l'irresponsabilité. C'est donc un problème, on préférerait qu'il règne et qu'un premier ministre éclairé gouverne. Le problème, c'est que les premiers ministres sont aussi souvent des félons, des usurpateurs et que le pouvoir ne saurait se scinder, se diviser. L'idée d'un tandem, d'un partenariat reste quand même hautement problématique dans une pensée politique qui a fait numériquement et philosophiquement et métaphysiquement de l'un hein, son emblème absolu depuis de l'unité hein, depuis l'Antiquité. Mais le légisme, oui, c'est l'anthropologie des libéraux, tout à fait, puisque on considère que les agents sont tout à fait rationnels à partir du moment où ils intègrent que les deux grands moteurs de la conduite sont la cupidité et la peur, et les légistes pensent que en manipulant les manettes ou les leviers sur ces deux passions, on obtient les résultats les plus bénéfiques pour l'État. Alors, c'est libéral dans la façon où on pense quand même que le jeu des égoïsmes, quand il est suffisamment bien canalisé par l'État, hein, n'entraîne pas un état de concurrence sauvage et de chaos meurtrier dans la société, mais au contraire une émulation qui profite à l'État. Il faut que la cupidité soit canalisée au sens où elle aboutisse à des récompenses chiffrées, hein, qui se traduisent de façon numérique et qui soient sanctionnées par l'État. De même que la peur, hein, doit être permanente. Il faut, comme le dit Si avec son humanisme coutumier Jeff Bezos, que les travailleurs se lèvent avec un sentiment d'anxiété, Hein. C'est vraiment le credo légiste qu'il se lève le matin pour aller au travail en ayant peur, peur de ne pas remplir les quotas, peur de ne pas remplir les indicateurs de performance, mais que cette peur soit limitée à cette transgression des lois et des normes et qu'en aucun cas elle ne puisse se traduire par des actes arbitraires ou par des mesures iniques comme dans des régimes purement despotiques. Hein.
C'est en... Alain Supio, vous voulez réagir, mais moi j'avais aussi une question à vous poser. Dans la préface de la deuxième édition, qui date donc de 2020, cinq ans après la première édition, vous dites que les choses depuis la première édition ont empiré. Vous parlez d'un dressage quasi animal des êtres humains et vous notez un spectaculaire essor des pathologies mentales liées au travail. Est-ce que ce constat que vous faites a à voir avec la gouvernance par les nombres ?
Oui, les statistiques de troubles psychiques au travail sont clairement liées au développement de formes de gouvernance du travail par les nombres qui vident le travail de son sens. Parce que là, si on veut revenir à la racine du mal, si je puis dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'opération de quantification sans opération préalable de qualification. Si je suis un honnête marchand, je veux aller vendre mes pommes au marché, je veux vendre des pommes comestibles. Donc déjà, il faut que je les distingue des poires, et puis ensuite, il faut que parmi toutes ces pommes, je sache distinguer les trop vertes, les pourries et les mangeables. Évidemment, il y a une marge d'indétermination. Et puis un chiffre va surgir. Et toutes les opérations d'hésitation, de qualification qui sont derrière le chiffre vont du coup disparaître. C'est-à-dire que il faut être conscient de la force dogmatique du chiffre. Alors, je ne m'avance pas sur le terrain chinois, mais en tout cas, tout le monde couvert par la numération dite arabe, mais en fait indo-arabe, vous allez dans n'importe quel pays, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous avait dit sur le montant de l'addition, on vous montre et vous comprenez. Et donc, le chiffre a une force dogmatique comparable à l'image, et c'est pas un univers de réflexif, on ne peut pas discuter des chiffres par des chiffres, on peut le faire que par des lettres, alors que l'univers, évidemment, littéraire, est par définition un univers réflexif. Donc on peut s'interroger sur les principes généraux qu'il y a dans le préambule de la Constitution, les grands principes fondamentaux de l'État, on peut revenir, réinterpréter un chiffre, échappe à ces techniques d'interprétation. Donc ce que je voulais dire ce qui vient d'être expliqué, ce qui m'a frappé aussi dans la lecture du livre de Romain, c'est comment au fond le légisme, dont son livre montre l'extraordinaire persistance historique, on ne comprend pas la Chine contemporaine si on n'a pas ses références, en même temps, cette pérennité n'a été possible que moyennant beaucoup d'accommodements, et notamment le fait qu'il met en valeur que, dans bien des cas, au fond, le légisme a été englobé dans le confucianisme, ou bien l'inverse, selon un processus que Louis Dumont, le grand anthropologue spécialiste de l'Inde, appelle l'englobement des contraires. Et dans le cas occidental, on a des processus un peu semblables. Au fond, l'état social, c'était une façon de, pour employer la terminologie de Karl Polanyi, de réencastrer le marché, c'est-à-dire l'univers du calcul, donc de liens sociaux réduits à des calculs d'utilité, de le réencastrer dans des objectifs généraux de justice. Et la pente du marché total, du néolibéralisme, c'est au contraire d'éliminer toute forme de discussion qui serait jugée subjective, peut-être sur qu'est-ce que la justice, puisque c'est dès 1939, par exemple, que Friedrich Hayek préconise l'instauration de fédérations d'États qui seraient susceptibles d'ôter à la démocratie les choix de politique économique, pour que les mécanismes puissent fonctionner automatiquement pour obtenir l'ordre spontané du marché.
Vous venez de prononcer le mot État, et justement, Romain Graziani, vous dites qu'il y a eu en Chine l'invention d'un slogan très ancien, peut-être le premier slogan, qui est « enrichir l'État, renforcer l'armée ». Et ce slogan est toujours opératoire, puisque vous citez un discours de Xi Jinping du 31 mars 2013, donc tout récent, qui dit ceci « Il faut procéder à une planification d'ensemble de l'édification de l'économie nationale et de la défense nationale en vue de réaliser une parfaite unité entre la prospérité du pays et la puissance de l'armée. C'est le slogan qui est repris éternellement. Oui. Quand on parle d'État, quand on parle d'enrichir l'État, de quoi parle-t-on par rapport à la conception qu'on a de l'État en Occident ?
Juste un petit mot avant de laisser Romain répondre sur la référence aux armées, parce que ça c'est un point commun en le lisant. J'ai vu, il y a eu un livre de notre collègue Lisnard, qui est un helléniste, et puis d'un autre dont malheureusement le nom m'échappe, sur la cité et les nombres, c'est sur Athènes, où ils mettent en évidence l'importance des décomptes militaires dans la culture du nombre, dans la fondation de la cité athénienne. Mais c'est tout ce que je... Sur État, oui, ça m'intéresserait, parce que vous voyez, dès qu'on circule en Europe, si vous allez en Grèce, le mot État, c'est sur la racine pouvoir. Et notre latin, c'est status, c'est ce qui tient debout. Si vous franchissez la Manche, la notion d'État, État anglais, on n'en parle jamais, c'est la couronne. Donc, vous allez en Italie, il stato, c'est Rome, c'est ci sono i ladri, c'est les voleurs.
C'est romain.
Et donc, à l'intérieur même, si vous voulez, de l'ère européenne, cette notion a énormément de résonances diverses, et c'est pour ça que est-ce que vous pouvez percevoir, vous, en Chine, une espèce de continuité d'une conception de cet être, de ce méga-sujet que serait l'État ?
Oui, tout à fait. J'ai choisi le mot État, je pense, à bon escient. Le terme chinois, guo, qu'on transcrit G-U-O, s'il désigne au départ les murailles extérieures, ou les murailles de la ville, la capitale, le siège du pouvoir, et petit à petit, le pouvoir, l'État territorial. Mais très vite, chez les légistes, autour du 4e siècle avant notre ère, il en vient à désigner une réalité qu'il faut bien se résoudre à nommer État. Pourquoi État ? Comme vous le rappelez pour le latin, c'est d'abord un vœu d'ordre, de stabilité, de pérennité et de continuité. L'État est opposé à la succession éphémère des souverains. On veut un ordre politique qui puisse survivre aux crises, à la bêtise ou à la folie des roitelets éphémères qui se succèdent sur le trône, même s'il n'y a pas de trône physiquement, puisqu'ils sont quand même assis en haut d'estrades, on essaye de penser un ensemble de procédures, de techniques de gouvernement et d'institutions qui soient suffisamment autonomes par rapport au caractère, aux personnalités qui en viennent à gouverner. Et c'est ça que j'appelle l'État, à tel point que certains serviteurs peuvent se mettre à détester le seigneur qu'ils servent, mais agir au nom de l'État. C'est une dissociation et une abstraction de cette notion que l'on trouve dès les légistes, c'est-à-dire, encore une fois, 3-4 siècles avant l'ère chrétienne.
Oui, alors,
Alain Supiot.
Oui, sur ce point, c'est très intéressant, parce que vous, à la fin du livre, de façon très discrète, mais très informative, vous évoquez le monde contemporain, et une des choses qui est absolument frappante dans ce que nous vivons aujourd'hui, après une trentaine d'années de globalisation, c'est des États qui se détruisent eux-mêmes, un être autophage. On pourrait le dire dans certaines mesures aussi des entreprises, hein, mais je me concentre ici sur l'État. Et on voit cette idée que dans une société qui serait réellement gouvernée par les nombres, on n'aura plus besoin d'État. C'était déjà la promesse léniniste, et je trouve que nos dirigeants ont un grand parfum léniniste aujourd'hui. Il y a une avant-garde qui maîtrise par les chiffres l'ordre de la société. Il faut convaincre la masse des pecnos qui ne comprennent pas par des techniques publicitaires ou les nudges, etc. Mais l'État, Lénine disait, est voué à disparaître, et dans la période intermédiaire, on aura un demi-État. Alors, ce qui advient aujourd'hui, mais aussi bien là, dans beaucoup de pays européens qu'aux États-Unis, donne une idée un petit peu de ce demi-État qui n'est plus en charge de l'incalculable, parce que c'est ça la proposition que je voulais vous proposer. Au fond, l'État, dans cette continuité, c'est celui qui est en charge de l'incalculable. L'incalculable, c'est quand, j'ai un critère simple, c'est quand les assureurs veulent plus assurer. Et à ce moment-là, on dit, bah, quoi qu'il en coûte, je me tourne vers l'État pour éponger l'implosion financière de 2008, le Covid, l'explosion d'une centrale nucléaire, etc. Et donc, cette transformation de l'État en ce qu'on peut appeler un état de marché voué à disparaître lentement. Hein. Vous savez, certains prophètes américains disent qu'il faut le réduire à une taille si petite qu'on pourra le noyer dans une baignoire, qui continue d'animer puissamment un certain imaginaire politique aujourd'hui. Mmh. Est-ce, apparemment, ça c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans la Chine contemporaine?
Non. On n'observe pas du tout. La base même du pouvoir, c'est quand même pratiquement 60 millions d'adhérents au Parti communiste chinois, qui sont quand même des relais puissants du pouvoir, la voix de l'État un peu partout. L'État est prééminent et très important, gouverne le capitalisme, intervient, s'occupe des têtes qui dépassent. Non, on ne peut pas dire qu'on assiste à une disparition de l'État. En revanche, on assiste à une sorte d'automatisation ou des déshumanisations de certaines activités qui sont ordinairement la prérogative de l'État. Deux exemples très simples, les juges robots. Les magistrats sont très mal formés en Chine et pour remédier aux partialités, à la corruption, à l'inefficacité des tribunaux administratifs, eh bien, on met en place des intelligences artificielles avec des capacités de collecte des données fantastiques où maintenant, pour amener un cas devant un tribunal, on passe d'abord par une intelligence artificielle, on soumet des données, il nous donne un pourcentage de viabilité de l'affaire, il calcule en pourcentage les taux de succès, et si on décide de se pourvoir devant un juge, d'entamer une action administrative, alors il y a un magistrat, mais qui est assisté d'une machine qui se livre à des calculs de tous les paramètres, trouve absolument tous les précédents, fait les commentaires d'arrêt qu'il faut et prend une décision. Et si le juge humain souhaite contester ses décisions, il a un travail, il a un pain sur la planche tellement considérable qu'il est facilement découragé. Ça, là, quand même, la fonction de la justice, c'est pourtant difficile de la retirer de l'État. Deuxième exemple, encore plus rapide, c'est les forces de l'ordre, puisque c'en est un stade expérimental, mais quand même, qui aurait pensé à faire des commissariats sans policiers? Une police sans agent humain. Ce sont, encore une fois, des expériences qui sont en cours dans certaines villes, mais qui nous montrent bien le devenir de certaines activités fondamentales de l'État. Et je parlerai une autre fois des réformes digitales de l'éducation aussi, qui font froid dans le dos.
En parlant ainsi, Romain Grasani, vous anticipez une question que je voulais poser. C'est-à-dire, est-ce que les petites différences que vous avez observées l'un et l'autre dans la façon de gouverner par les nombres en Chine ou en Occident va conduire à des usages différents de l'intelligence artificielle, à votre avis?
On observe déjà dans l'ère occidentale à des différences, avec toutes leurs imperfections, les règles qui ont été adoptées au niveau de l'Union européenne, même si elles semblent tout à fait prêtes à reculer face aux pressions actuelles des big tech, témoignaient au moins d'une prise de conscience des risques, et à mes yeux, le principal, c'est-à-dire il faut revenir à une logique de l'interdit, au sens latin premier, interdico, c'est celui qui s'interpose pour éviter que les gens échangent des coups et continuent d'échanger des paroles, c'est ça le premier sens de l'interdit. Et à mes yeux, le risque majeur, neuf, parce que l'humanité en a vu d'autres, si je puis dire, d'aller dans des impasses, ça se paye de massacres, de catastrophes, et puis on se réveille. Là, ce qui est le plus préoccupant, c'est que nous avons des technologies qui mettent de la bouillie dans la cervelle de nos enfants. Et à mes yeux, s'il y avait une chose qui serait urgente, c'est de réinstaurer une logique de l'interdit pour que les enfants ne soient pas exposés à des techniques qui sciemment visent à créer chez eux l'addiction, à les enfermer dans justement des boucles autoréférentielles, à les couper de l'expérience du monde réel. Je crois que là, il y a un enjeu de première importance. Si j'étais un dictateur bienveillant, caché dans le fond de son palais, mais est-ce que j'introduirais un permis d'accéder.
Mais est-ce que les Chinois le font? Est-ce que Alors, il y a une protection de l'enfance vis-à-vis du numérique.
Mais par exemple, il y a une mesure que certains Européens envient, c'est la limitation du temps passé devant les jeux vidéo pour les enfants.
Et c'est qui existe en Chine, mais pas en Occident.
Et qui est une prohibition instaurée par l'État. Où il y a un certain nombre d'heures par semaine et on ne peut pas avoir des enfants complètement abrutis par 14 heures de suite devant Fortnite après... à la faveur de week-ends ou de vacances. Ça, ça n'est pas permis. Alors, il y a du lavage de cerveau d'autres façons, évidemment. Mais les différences, elles sont quand même, à ce stade-là, encore intéressantes. Parce que dans l'Union européenne, il y a quand même une sorte de barrage encore juridique pour essayer de protéger les citoyens de l'intrusion trop forte, de la surveillance, de l'écoute, de la collecte de données. Alors qu'en Chine, l'État ne se gêne pas pour siphonner toutes les données particulières, celles des entreprises et des services privés comme publics, en essayant, de façon désespérée, d'adapter tous ces langages informatiques, de faire converger toutes ces données dans un système central.
Est-ce qu'on peut mesurer la distance qu'il y a entre la phrase que nous avons citée tout à l'heure, extraite du manuscrit de Pékin, « Sans les nombres, impossible de saisir la trame du réel », ça fait presque penser à la phrase de Galilée, disant que la nature est écrite en langage mathématique. Lui, il parlait de la géométrie. Sans lequel, disait-il, il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Est-ce que ce qu'on a dit sur les nombres pouvait s'appliquer à une philosophie de la nature, et pas simplement de l'empire, du peuple, de l'organisation de la cité ?
Bon, là j'aurais envie de vous renvoyer notamment aux travaux de Longo, qui montre...
Giuseppe Longo.
Oui, que dans le même temps, la quantification est un outil extraordinairement puissant d'intelligibilité du monde, etc. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais il montre, par exemple, comment la biologie s'engage dans des impasses dès lors qu'elle voit le vivant comme l'exécution d'un programme, qui est une notion qui est née d'abord chez les technologues. C'est-à-dire et là, on retrouve... notre discussion tout à l'heure sur le discret, le continu, les phénomènes du vivant, d'apprentissage des expériences vivantes. Il faudrait restaurer beaucoup, redonner de la place un peu à la phénoménologie en matière. Nous sommes un peu malades d'avoir eu trop de philosophie analytique pour reprendre la nécessité de tenir ces deux dimensions.
Je terminerai simplement en disant que moi-même, je me suis tourné vers les études chinoises parce que j'étais malade d'un surcroît de philosophie analytique pendant des années et qu'au terme de mon parcours sinologique, je me retrouve avec cette phrase justement qui dit que la trame du réel, ce sont les nombres et qu'on ne peut rien faire sans penser à des nombres et sans organiser sa vie psychologique avec des nombres.
Merci à vous deux, merci d'être venus. Je recommande évidemment la lecture de vos livres, La gouvernance par les nombres d'Alain Supiot, dans l'édition de poche aux éditions Pluriel, et puis ce livre de votre livre, Romain Graziani, qui vient de sortir, Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise, qui vient donc de paraître aux éditions Gallimard. Et je recommande aussi la lecture d'un livre que nous avons cité, celui d'Olivier Rey, Quand le monde s'est fait nombre, qui est paru aux éditions Stock. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Olivier Arnay et à la réalisation Anna Holweck.